Vous êtes sur RTL.
2h30.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. C'est 30 minutes d'information à la mi-journée avec à la une 3 nouvelles médailles pour la France ce matin. Du bronze en cyclisme sur piste et puis une journée historique pour le basket. Le compteur affiche désormais 30 médailles et la moisson va se poursuivre cet après-midi. 3000 policiers et gendarmes à Paris pour encadrer la manifestation des anti-pass sanitaires. Les autorités craignent à nouveau des débordements alors que la loi a désormais été validée par le Conseil constitutionnel. Plus d'un millier de kilomètres de bouchons sur la route des vacances. Vous êtes encore très nombreux. Un point sur vos conditions de circulation à suivre dans ce journal. Et puis c'est une rumeur qui semble chaque heure un peu plus concrète. Lionel Messi en route vers le Paris Saint-Germain. 6 fois Ballon d'Or, sans doute le plus grand joueur de tous les temps. Son contrat s'annonce pharaonique. On fera le point sur les dernières infos avec Arnaud Herman, journaliste à l'équipe et spécialiste du Paris Saint-Germain. Le ciel, Valérie Quintin, attention aux orages. Cet après-midi, 3 départements sont déjà placés en vigilance orange.
Oui, on va surveiller les orages du sud et de l'est cet après-midi et ce soir. L'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange pour ces orages. On attend un gros cumul de pluie sur une période assez courte et sur des sols bien sûr déjà saturés. Des orages qui pour l'instant vont du Vaucluse jusqu'au Jura et ça va continuer comme ça tout au long de la soirée. À l'arrière, un régime d'averse, qui veut dire qu'entre deux quand même, on peut espérer quelques éclaircies, mais elles ne tiendront pas tout au long de l'après-midi. Le soleil, lui, le vrai, on va le trouver en Corse. Les éclaircies pourraient se maintenir également une grande partie de la journée dans le Var et les Alpes-Maritimes. Restent les températures encore un peu justes. 18 degrés à Rodez aujourd'hui, 20 degrés à Valenciennes, 21 à Mâcon, 22 degrés à Paris et Bordeaux, 26 à Nice et 29 degrés à Bastia.
Merci Valérie.
RTL à Tokyo.
Et oui, direction Tokyo tout de suite. Cette 30e médaille olympique pour la France, on ne l'avait pas forcément vu venir. Isabelle Langer en cyclisme sur piste. Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont terminé 3e dans la course à l'américaine.
L'américaine, autrement appelée Madison, c'est pas une danse, Alexandre, mais bien une course au point de 50 km disputée par équipe de 2 cyclistes qui se relaient à volonté. Le duo tricolore est composé du réunionnais Donovan Grondin, 20 ans, néophyte en grande compétition, et de l'expérimenté Benjamin Thomas, bientôt 26 ans. Le Tarnais, chef de file de cette équipe de France de Pistard, était encore sous le coup de l'émotion à l'arrivée. Il est au micro de France Télévisions.
Moi, dans les 3 derniers relais, franchement, je savais plus ce qui m'arrivait. Je pédalais les yeux fermés et je donnais tout ce que j'avais en pensant juste à la ligne d'arrivée. Voilà, je sais même pas combien on faisait à la fin avec ces points-là. Donc, je savais que si on continuait à bloc jusqu'à l'arrivée, on avait une médaille. Donc, on a fait ça. Et puis, moi, j'y crois pas, j'en reviens pas après la déception d'il y a 2 jours. C'est incroyable pour moi.
Benjamin Thomas va en effet échouer avant-hier dans sa quête de titre olympique sur l'Omnium, terminant au pied du podium. Il s'était promis de ne pas quitter le Japon sans médaille. Voilà qui est fait. C'est la deuxième breloque pour l'équipe de France de cyclisme sur piste, après le bronze lors de l'épreuve par vitesse, de vitesse.
Isabelle Langer à Tokyo pour RTL. Parmi les autres médailles du jour, le basket à l'honneur. Journée historique d'abord chez les Françaises qui terminent 3e. Médaille de bronze après une victoire face à la Serbie, Nicolas Burnand.
Oui, on a vu les tricolores courir sur le terrain, hurler leur bonheur, sauter à pieds joints dans les bras de leur coach Valérie Garnier. Elles ont trouvé les ressources mentales pour battre les Serbes et surtout jouer collectif, ce qui leur avait tant manqué jusque-là. La capitaine Andy Miem est au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je suis juste trop contente. Non, on voulait vraiment, vraiment, mais vraiment pas perdre. On est 12 filles superbes. Bosser ensemble, ça a été dur, ça a été long, mais on sait pourquoi on l'a fait. C'était pour arriver à un résultat comme ça, pour repartir avec une médaille. Et puis après, on se reposera et chacune ira de son côté.
Ensemble, depuis seulement 3 mois, les Bleus étaient programmés pour faire une performance aux Jeux de Paris. Cette médaille remportée ici à Tokyo sera forcément importante pour 2024.
Bon, et puis toujours en basket, médaille d'argent cette fois pour les garçons. On a vu des très belles choses durant ces Jeux.
Oui, depuis 2009, le sélectionneur Vincent Collet, travailleur et méticuleux, a su faire de la France une équipe qui sait gagner, y compris aux Jeux Olympiques, en s'appuyant sur des joueurs expérimentés, le capitaine Nicolas Batum ou encore Rudy Gobert, tous titulaires en NBA.
Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, donc on s'est beaucoup servi de cette expérience. C'est de faire une vraie cohésion opératoire entre justement nos leaders et les autres joueurs, dont les nouveaux. Parce que ça veut dire qu'il y a un principe de transmission, c'est ce qu'on appelle appelle la co-construction et je crois qu'on l'a vraiment bien réussi cette année.
Avant son arrivée, l'équipe de France de basket n'avait que l'argent à Sydney et le bronze à l'Euro. Cette nouvelle médaille olympique est la première et peut-être la plus belle de Vincent Collet.
Nicolas Burnan à Tokyo pour RTL et le sport collectif sourit aux Français cette année. On suivra cet après-midi la finale du handball et celle du volley chez les garçons. Médaille assurée, potentiellement deux médailles d'or. Les résultats complets, le résumé de la journée à suivre ce soir dans On refait les jeux avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Ce sera entre 18h30 et 19h.
Alexandre de Saint-Aignan, RTL Midi.
Le retour des anti-pass sanitaires. Le Conseil constitutionnel a validé le texte de loi jeudi. Il faudra donc montrer patte blanche à partir de lundi dans les restaurants, dans les bars ou encore dans les trains. Une décision qui ne passe toujours pas pour certains. Après une mobilisation croissante les week-ends précédents, les opposants sont à nouveau dans la rue cet après-midi. Ils sont déjà nombreux à Paris. Valentin Boisset.
Oui, hein, nombreux malgré la pluie. Il y a 4 cortèges aujourd'hui de prévus dans Paris, dont l'un depuis le pont de Neuilly où je me trouve. Ce cortège va s'élancer dans quelques minutes et plusieurs centaines de personnes sont déjà présentes. Le mot d'ordre est sur les pancartes « Liberté et abrogation du pass sanitaire ». Mais ce matin, une nouvelle cible est apparue dans la bouche des manifestants, le Conseil constitutionnel qui a validé l'essentiel du projet de loi du gouvernement, comme l'explique ce couple de manifestants venus de Reims.
Le Conseil constitutionnel a validé l'obligation vaccinale. Et ça, pour moi, ça va à l'encontre de la libre décision de chacun de disposer de sa santé et de voir au cas par cas avec son médecin traitant est-ce que le bénéfice risque il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon.
Le Conseil constitutionnel n'a pratiquement rien changé et donc là aujourd'hui ça se joue dans la rue encore une fois. J'espère que Emmanuel Macron nous entendra, le gouvernement, et puis s'il faut qu'il s'en aille même.
Voilà, certains le disent aujourd'hui, le combat se resserre, c'est désormais Emmanuel Macron face à la rue. La manifestation s'élance maintenant, 9 km de prévu, direction le centre-ville de Paris. À noter que ce cortège est particulièrement encadré par les forces de l'ordre déjà très présentes tout au long du trajet.
Valentin Boisset pour RTL. Et ce duel justement entre Emmanuel Macron et les anti-pass sanitaires à Brégançon dans le Var, ils ont tenté un coup de force ce matin. Les manifestants sont allés sous les fenêtres d'Emmanuel Macron sur la plage en face du fort où le président de la République passe ses vacances. Mais les forces de l'ordre, là aussi, avaient anticipé en déployant un important dispositif. Résultat, seule une trentaine de personnes ont pu accéder à la plage. L'organisateur David Gutiérrez, élu sans étiquette de la Seine-sur-Mer, a rapidement été interpellé.
Où je me suis posté face au fort pour pouvoir aller le chercher sur son terrain, puisque c'était son souhait à une époque. Je me souviens de sa phrase, mais qu'il vienne me chercher. Alors on va aller le chercher là où il est. Et puis nous allons rentrer en résistance à partir d'aujourd'hui. Le message, il est très simple. C'est-à-dire que j'appelais, et c'est un appel à la liberté hein, du fort de Brégançon, j'appelais les Français désormais à partir d'aujourd'hui à s'unir et à rentrer dans la résistance contre ces mesures applicables à partir de lundi, le pass sanitaire notamment, ou la vaccination obligatoire des soignants ou des professionnels de secours.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Avec les manifestations qui se répètent, la crainte désormais d'une radicalisation. Les attaques se multiplient contre les symboles de la vaccination. À Toulouse, les locaux de l'Ordre des infirmiers ont été vandalisés avec notamment des tags anti-pass sanitaire. Alain Débouchage, président de l'Ordre des infirmiers de Haute-Garonne.
C'est vrai que c'est une sorte d'incompréhension parce que à l'Ordre, on ne fait pas de politique. Hein. Nous, on est là pour assurer une mission de service public. On est là pour essayer de promouvoir les compétences des infirmières et des infirmiers. Et la vaccination en fait partie. On n'a pas demandé la vaccination obligatoire des soignants. Aujourd'hui, en plus, on a fait quelques enquêtes. Il y a une bonne partie de la profession infirmière qui est déjà vaccinée. Donc pour nous, c'est un non-sujet. On continue à promouvoir la vaccination auprès des infirmières et des infirmiers. On n'est pas responsable de la loi. C'est sûr que c'est pas rassurant. J'espère que justement cet acte sera un acte isolé, que ça fera prendre conscience que il faut apaiser les tensions pour que nous, en tout cas, on puisse exercer notre profession de manière la plus sereine possible dans cette période tendue.
Le président de l'Ordre des infirmiers de Haute-Garonne avec Nerissa Imani pour RTL. Parmi les slogans des manifestants, il y en a un qui revient sans cesse. C'est celui du manque de recul. On manquerait de recul sur les vaccins. Invité de RTL ce matin, Patrick Zilberman, professeur d'histoire de la santé. Lui, il rappelle que les vaccins ont toujours été une solution développée dans l'urgence.
Je prendrai un seul exemple, celui de Pasteur. Lorsqu'on lui amène le petit Joseph Meister qui a été mordu 14 fois par des animaux enragés, pour lui éviter une mort certaine, Pasteur décide de fabriquer un vaccin contre la rage. Son collaborateur le plus proche, Émile Roux, lui dit « Écoutez, c'est risqué, on n'a jamais utilisé ce vaccin. Moi, personnellement, je ne prends pas de risque de vacciner l'enfant. » Pasteur dit « Si, on va y aller, je prends le risque. » La conclusion, c'est quoi de tout ça, si vous voulez? C'est que Pasteur a décidé qu'on pouvait agir avant de comprendre. C'est-à-dire, on a l'habitude, si vous voulez, de vacciner avant de connaître exhaustivement l'organisme contre lequel on injecte le vaccin.
Patrick Zilberman, invité de RTL Matin avec Agnès Bonfillon. Dans un instant, la fin d'un petit arrangement avec le pass sanitaire à partir de lundi. Fini la jauge des 50 personnes dans les cinémas ou dans les musées.
Alexandre de Saint-Aignan. RTL Midi. Alcool. RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
13h-20 sur RTL. Le cinéma ou le musée sans passe sanitaire, c'est vraiment terminé. Depuis quelques semaines, de nombreux établissements avaient trouvé une parade en limitant à 49 visiteurs pour passer sous les radars. Ce sera impossible à partir de lundi. Il reste donc ce week-end une poignée de lieux culturels accessibles sans avoir à montrer patte blanche, comme au château d'Auvers-sur-Oise où certains profitent d'une dernière visite culturelle avant longtemps, Lucille Bess.
Sur le site internet du château, le message est inscrit en gros. Jauge à 49 personnes, pas de passe sanitaire. Thomas n'a qu'une seule dose de vaccin, alors quand il a lu ça, il a sauté sur l'occasion.
C'est la première chose qu'on regarde maintenant, si on peut venir ou pas. Avant d'être complètement bloqué, d'être enchaîné chez moi.
Au milieu des œuvres impressionnistes, Betty écoute avec attention la voix off qui raconte l'histoire des peintres exposés. Mais pour elle, cette dernière visite autorisée a un goût amer.
Oui, ça m'a fait triste parce que j'ai l'impression que ça prime ma liberté. C'est fini, c'est fin du monde.
Dès mardi, le musée contrôlera le pass sanitaire. Du côté de la direction, Patrick Toutlouyant le concède. Il risque de perdre quelques visiteurs.
On a eu plusieurs remarques de visiteurs qui étaient contents qu'en fait, finalement, ça reste toujours simple de venir au château et qu'il n'y ait pas ce type de contraintes.
Malgré tout, l'équipe est prête.
On a déjà des éléments qui vont se déployer assez rapidement. L'utilisation de téléphones portables pour le contrôle des passes, l'identification du personnel qui va être amené à procéder au contrôle. L'idée, c'est vraiment que ça reste fluide. Finalement, il y ait le moins de contraintes possibles pour montrer que, de toute manière, le lieu culturel que nous sommes reste aisément accessible.
Pour ceux qui n'auraient pas de passe sanitaire la semaine prochaine, l'accès au jardin du château, lui, reste libre.
Le reportage signé Lucille Bess dans l'Oise pour RTL. C'est un nouveau week-end de chasse et croisée sur la route des vacances. On va faire un point sur la circulation dans un instant. Mais d'abord, une escale en Gironde sur l'autoroute A63. Juliette Chénion, vous êtes sur l'aire de repos de Sestas. Les parents s'arrêtent pour faire une pause et les enfants commencent à voir la tête en vacances.
Oui, exactement. Et la première question, pas si évidente que ça, c'est de savoir où on part. Tu connais la ville où tu vas ?
Toulouse.
Non.
Ah non. Ah oui, à Souston.
Tu vois où c'est, Mimizan ?
C'est là où on va, maman. Maman. Je sais que c'est à côté de Bordeaux, en tout cas. Parce que moi, j'aime bien le foot, du coup, je connais un peu les équipes. Et il y a juste ça que je connais de Bordeaux, du coup, voilà.
L'avantage dans les bouchons, c'est que les enfants ont le temps d'imaginer les vacances.
Je vais me baigner, je vais visiter Bordeaux. Ah oui, je vais surfer.
Ça va être une première ?
Oui.
Et tu penses que ça va être comment alors ?
Très marrant et aussi très dur.
Je vais aller plein de fois à la piscine.
Et on va faire du petit train. Ben, c'est le train qui te montre toutes les maisons de Arcachon. Maman a dit ce qu'on allait faire.
Toi, t'auras envie de faire quoi ?
D'aller à la mer, mais on va y aller cet après-midi, peut-être.
Si tu pouvais choisir, t'irais quand ?
Ben, maintenant.
Il reste une bonne heure de route pour Angèle. Une heure donc pour convaincre ses parents d'aller à la plage le plus vite possible.
Allez, encore un peu de patience. Juliette Chénion pour RTL, le mois d'août qui sonne aussi pour certains. L'heure de la fin des vacances pour Mickaël et pour Amel, c'est déjà l'heure de rentrer.
C'était super, mais c'était pluvieux.
Bah, en fait, on était en camping, donc on a pris nos tentes, nos matelas, et puis après, ce qu'on a fait, journée classique, on essayait de s'occuper avec les activités du coin quand il y en avait, et puis après, piscine quand il faisait beau, la plage.
On n'a pas beaucoup dormi, il y a eu quelques sorties, et j'ai un job d'été cet été, du coup, je reprends le travail lundi. Du coup, il me reste une journée de repos, et après, c'est reparti. On a pris quelques forces pour le travail, et on reprend lundi de bonne humeur.
Bah voilà, bon courage. En tout cas, que ce soit dans le sens des départs ou des retours, c'est l'heure de pointe. Sur la route des vacances, journée classée rouge et même noire dans la vallée du Rhône. Il faut se montrer patient, Sarah Loubacouche.
Oui, même très patient, Alexandre. Le pic de trafic a été atteint à midi avec un peu plus de 1050 km de bouchons cumulés sur tout le territoire. Donc c'est chargé sur l'A7 évidemment en direction du sud. Hein. Comptez 2h30 supplémentaires pour aller de Lyon à Orange. Ça fait 4 heures de trajet. Ah oui. Et puis un peu avant aussi sur l'A6 en direction de Lyon, Bison Futé recommande d'éviter le secteur heures. Conseil plutôt de prendre la 39 de Dijon, puis la 40 en direction de Genève. Ensuite, après Bourg, suivre Lyon par la 40 et la 42, ça vous allonge votre temps de parcours de 10 km. On s'accroche et on reste vigilant sur la route.
Voilà les conseils signés Sarah Loubacouche pour RTL. Merci. À l'étranger, la Grèce dévorée par les incendies. Emmanuel Macron annonce à l'instant l'envoi de 3 canadaires français sur place. 80 pompiers et sauveteurs. La France se tient aux côtés de la Grèce. Je cite Emmanuel Macron. Un mot de football pour vous rappeler le début du championnat de Ligue 1. Ce week-end, Monaco et Nantes ont fait match nul hier soir, un partout. Cet après-midi à 17h, Lyon reçoit Brest. Le Paris Saint-Germain se déplace à 3 à 21h. Dans un instant, le Paris Saint-Germain en ébullition face à l'arrivée de plus en plus probable de Lionel Messi à Paris. On va en parler avec notre invité.
Alexandre de Saint-Aignan, RTL Midi. Alexandre de Saint-Aignan, RTL Midi.
12h47 sur RTL. L'invité de RTL Midi, c'est Arnaud Hermant, journaliste à l'équipe et spécialiste du Paris Saint-Germain. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait des mois, voire des années que le Paris Saint-Germain rêve de s'offrir Lionel Messi, mais depuis hier, le rêve n'a jamais été aussi proche de la réalité. Pourquoi est-ce que ça s'est accéléré comme ça dans les dernières heures ?
Ça s'est accéléré tout simplement parce que Lionel Messi ne peut pas rester en l'état au FC Barcelone compte tenu de la grave situation financière du club catalan. Plus d'un milliard de dettes, une masse salariale qui dépasse même son budget. Donc en fait, toute la problématique est là. Les instances espagnoles qui dirigent la Liga ont mis des règles en place et le Barça ne les remplit plus. Et donc à partir de là, il était impossible pour eux de conserver Lionel Messi, ou alors il aurait encore fallu qu'il fasse des efforts pour accepter une baisse de salaire, et a priori il n'a pas accepté. Donc dans ce cadre-là, il n'y avait plus beaucoup d'autres solutions, sauf à ce qu'il aille jouer dans un pays exotique, si je peux parler ainsi. Il restait le Paris Saint-Germain et Manchester City.
Quand est-ce qu'on sera vraiment fixé à savoir si Lionel Messi arrive réellement au Paris Saint-Germain?
Je pense que la volonté des deux parties, c'est que ça se fasse. Donc il y a de très 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 grandes chances, vous l'avez dit en préambule, que l'opération se réalise, qui serait un énorme coup
dans
le milieu du football et même au-delà. Après, c'est une opération qui est quand même très compliquée financièrement pour le Paris Saint-Germain, qui est déjà un club qui perd beaucoup d'argent depuis deux saisons, notamment en raison de la crise du Covid, qui a aussi des joueurs très chers à payer. On pense à Neymar, Mbappé, plus les recrues de cet été. Donc je pense que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. La volonté vraiment des deux parties est de faire affaire ensemble, de faire en sorte que Lionel Messi rejoigne le Paris Saint-Germain. Après, je pense que la construction de l'accord, notamment le montage financier pour le PSG, parce qu'on parle d'un salaire entre 30 et 40 millions d'euros annuels. Alors après, il faut qu'on voit si c'est du brut ou du net. Évidemment, ça change beaucoup de choses.
Bien sûr.
Avec la fiscalité française. Donc c'est un montage qui ne sera pas simple, mais je pense que puisqu'il y a une volonté des deux côtés d'y arriver, que ça va se faire.
On parle aussi d'une prime peut-être à la signature pour Lionel Messi, c'est envisageable, ça serait combien?
J'ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les joueurs qui ont signé libre cet été, Gianluigi Donnarumma, Jorginho Wijnaldum et Sergio Ramos, n'en ont pas eu. Alors, ils n'ont pas le talent ni le palmarès de Lionel Messi.
Ils n'ont pas si ballon d'or.
Ils n'ont pas si ballon d'or, même si Sergio Ramos est un très grand joueur. Donc, je ne sais pas, compte tenu du salaire qui va être versé à Lionel Messi, je ne sais pas si Paris Saint-Germain agrémentera tout ça d'une prime à signature. Ça me paraît quand même compliqué.
Du côté du fair play financier, ça peut passer ?
Ah, c'est aussi la problématique un petit peu du PSG. On sait que le fair play financier est un petit peu assoupi depuis la crise du Covid. Ils permettent aux clubs de retirer de leurs résultats globaux les pertes liées vraiment à la crise sanitaire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 200 millions de pertes, mais que il y en a 150 liées, par exemple, à l'activité d'absence de recettes de billetterie. Bon, ça, vous pouvez la retirer de vos comptes. Donc, on va comptabiliser simplement 50 millions de pertes et puis 200. Bon, voilà, il y a des moyens de s'arranger, mais le Paris Saint-Germain, s'il prend Lionel Messi, à un moment ou à un autre, il faudra quand même qu'il se mette dans les clous du fair play financier. Et les clous du fair play financier, c'est de ne pas dépenser normalement plus que ce que vous touchez sur une certaine période. Donc, ça risque de poser problème.
Bon, si on se projette un petit peu, on imagine que ça passe du côté du fair play financier, on estime que tout le monde arrive à se mettre d'accord. À quoi va pouvoir ressembler l'attaque du PSG maintenant avec Lionel Messi ?
Ah bah ça va être formidable, hein. Ça va être Neymar, Mbappé, Messi, peut-être même une attaque avec Di Maria. Donc après il faudrait voir, est-ce que Lionel Messi jouerait sur un côté où on soutient dans une sorte de d'attaque en losange, en numéro 10 ou en faux numéro 10. Donc voilà, une équipe de football c'est une attaque, mais c'est aussi un milieu de terrain et une défense. Donc il faudra trouver un équilibre pour que l'arrivée de Lionel Messi sublime le collectif du Paris Saint-Germain et ne le plombe pas parce qu'il y aurait un déséquilibre trop fort offensivement.
Bon, pour les supporters, ça ressemble à une très bonne nouvelle, en tout cas si ça se fait. Est-ce que vous savez comment est-ce que la nouvelle a été prise du côté du vestiaire parisien ?
C'est plutôt quelque chose qui est évidemment vu très positivement. Alors, au-delà de l'aspect, on va dire, vous recrutez le meilleur joueur ou l'un des tout meilleurs joueurs du monde, de tous les temps, selon certains, en tous les cas, de ces dernières saisons, c'est une certitude, même si à 34 ans, évidemment, il est peut-être un petit peu plus près de la fin que du début. Après, il a beaucoup d'amis dans le vestiaire. Il est très copain, évidemment, avec les Argentins Paredes, Di Maria. Mais il est aussi très ami avec Neymar. Hein. On sait que quand Neymar avait souhaité quitter le Paris Saint-Germain, il y avait un garçon qui poussait pour qu'il revienne au Barça, c'était Messi. Et on sait aussi que, inversement, Neymar appelle régulièrement Lionel Messi pour qu'il vienne au PSG. Et encore très récemment, ils étaient en vacances sur une île célèbre espagnole, tous ensemble. Ils se sont croisés. On a vu des photos sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi Marco Verratti. Donc l'arrivée de Lionel Messi ne peut qu'être appréciée dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Parce que les joueurs de foot là sont là pour gagner. Ils savent que si vous prenez Messi avec vous, vous avez quand même un peu plus de chances de gagner qu'avec un autre joueur.
Bah ça c'est sûr. Et puis là, maintenant, avec l'arrivée potentielle de Lionel Messi, on se dit que le Paris Saint-Germain n'a plus vraiment le droit à l'erreur pour la Ligue des Champions. Hein. C'était l'objectif depuis des années. Le PSG est toujours passé à côté. Mais là, avec Lionel Messi, ce serait impossible de passer à côté.
C'est ce qui fait le charme du football, c'est que tout n'est pas acquis en début de saison, même si vous avez potentiellement la meilleure équipe. Mais il est évident qu'avec Lionel Messi dans ses rangs, le PSG est plus que jamais le favori de la Ligue des Champions, sera plus que jamais attendu et aura plus que jamais peu de chance ou pas de chance du tout de se louper. Donc c'est évident que plus que les saisons passées encore, avec Neymar, Mbappé, avec Messi dans ses rangs, le PSG sera l'ultra favori. Et on va dire que ça va s'accompagner, ce statut, aussi de quelque chose en revers, qui est que les grands clubs européens connaissent des difficultés. Alors je mets de côté le Bayern, je mets de côté Manchester City, mais par exemple les deux géants espagnols, le Barça, on le voit bien puisqu'ils sont obligés de lasser Messi, mais même le Real, ils sont très handicapés. Au-delà du départ de Zidane, vous avez le départ de Sergio Ramos, vous avez le départ de Varane à Manchester United. Zidane n'est plus là, je vous l'ai dit. C'est un club qui a beaucoup de pertes aussi, plus de 300 millions d'euros. Donc on va dire que le PSG aujourd'hui, avec Messi, c'est un projet, peut-être le projet le plus séduisant pour le foot européen.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Herman d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Équipe. Très bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Il est 12h54 sur RTL. Dans un instant, on va reprendre la route avec Christophe Bourou, direction le Sud-Ouest sur la Nationale 10. A tout de suite.
Alexandre de Saint-Aignan. RTL. RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Et chaque samedi de l'été, RTL vous emmène en vadrouille. Direction ce midi, Cassie, Christophe Bourou.
Christophe Bourou sur RTL, nos plus belles routes de vacances.
Oui, ce matin, je vous amène entre Garrigues et Mer sur une route de 35 km sublime qui serpente, qui longe les Calanques, qui passe de col pour littéralement plonger sur le port de la Ciotat. Alors à peine on a quitté le vieux port de Marseille qu'on entame directement les premiers lacets de la route de la Gineste et déjà la vue est somptueuse.
Une vue exceptionnelle sur Marseille, le stade Vélodrome, le fameux stade Vélodrome, les plages du Prado, le vieux port et les îles du Frioul et le fameux château d'If.
Avec nous Stéphane Vimez, il est à la tête du Méhari Club Cassis, spécialiste du rétrofit. Le rétrofit, c'est l'art de transformer nos bonnes vieilles voitures en électriques et grand privilège, c'est à bord de la toute première deux chevaux électriques au monde que nous prenons place.
Alors là, c'est parti. Donc, évidemment, on est dans un silence de fonctionnement inconnu dans une deux chevaux classique. À ses allures, à 40, 50 km/h, on se balade cheveux au vent dans une voiture au capital sympathie énorme. Et ça, ça n'a pas de prix.
Ah, encore des gens qui nous font signe sur le bord de la route avec les pouces levés.
Oui, des pouces levés, des sourires. On attire la sympathie. C'est un peu la Madeleine de Proust pour nombre de gens. Ils ont connu cette auto petit. Ils ont tous une histoire avec la deux chevaux. Et quand ils en voient une sur les routes, c'est immédiatement un sourire qui éclaire leur visage.
Un périple en deux Dodge électrique où nous serpentons des lacets à couper le souffle. Route qui reprend en partie le tracé d'une ancienne voie romaine.
Sur une route qui est un peu la route des écoliers pour se rendre à Marseille, c'est la route de la Gineste, qui est absolument fabuleuse parce que on coupe, on croise, on rentre à l'intérieur du parc national des Calanques et on a ce spectacle magnifique de végétation, de roches. C'est vraiment un coin extraordinaire.
Et c'est dans ce décor que s'entraînent de nombreux coureurs que l'on croise sur cette route, car depuis 79, c'est sur ce parcours que se déroulent tous les mois d'octobre les 20 km du Marseille-Cassis, course devenue légendaire, classée même dans le top 50 au niveau mondial. 20 000 participants, dont Alain, qui a accepté d'être équipé d'un micro pour nous faire vivre son entraînement.
Voilà, là je suis parti, là. Super, le départ est magnifique avec tout ce monde, là, 20 000 personnes, l'ambiance. Et dès que vous commencez à monter le col de la Gineste, à 300 mètres d'altitude, c'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est une des plus belles courses du monde.
En courant ou en marchant, on peut aussi s'enfoncer dans la garrigue, dans un décor à la Marcel Pagnol, comme l'hôtel des Volets Rouges, seul hôtel en France à être installé en plein milieu d'un parc national, celui des Calanques, que l'on peut rejoindre d'ailleurs par des chemins que nous fait découvrir Arnaud, propriétaire de l'établissement.
Par le petit portillon qui se trouve face à vous, on va directement sur le sentier qui mène à la plus belle des Calanques de Cassis, qui se trouve être la Calanque d'Envie.
Dans ma petite Calanque.
Et justement, c'est au Calanque que nous nous retrouvons dans un décor de carte postale.
Privilège exceptionnel. On va pouvoir rentrer en voiture dans la Calanque de Port-Mioux. Alors là, endroit magique. On est dans la Calanque de Port-Mioux qui héberge à peu près 400 bateaux.
On aperçoit même les poissons.
Ouais. Une calanque, typiquement, hein, c'est une incursion maritime à l'intérieur, je dirais, de la terre, hein, donc qui est venue, on va dire, creuser la roche, si je puis dire. En tout cas, donc on a une incursion d'eau et qui crée un espèce de chenal qui va se retrouver au calme, puisqu'on est à l'intérieur des terres, et on a des eaux finalement peu profondes et qui sont extrêmement transparentes.
Avec en toile de fond ces pierres célèbres de Cassis qui ont fait la réputation du lieu, comme l'explique ce guide de la région, Étienne.
Alors face à nous, voyez, on a ces très belles falaises de calcaire blanc. Ce calcaire donc qu'on appelle la pierre de Cassis, qui a été extraite pendant des siècles, qui a été utilisée depuis l'Antiquité déjà, et qu'on retrouve notamment à Marseille. Pour les fondations de la cathédrale de la Major, elle a été utilisée notamment aussi pour Notre-Dame de la Garde. Et puis à l'international, on en est très fiers, mais le piédestal de la Statue de la Liberté est en partie pavé avec de la pierre de Cassis.
Et retour dans la Dodoche électrique pour continuer direction la route des Crêtes, considérée comme l'une des plus belles routes d'Europe que nous allons vous faire découvrir et emprunter demain.
Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu.
Nos plus belles routes de vacances avec Christophe Bourreau, une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet rtl.fr. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, il est 13h. Et le rappel des principaux titres de l'actualité. À deux jours de l'extension du pass sanitaire, les opposants de retour dans la rue. Les autorités craignent des débordements. Une trentaine de personnes ont tenté de manifester sur la plage en face du fort de Brégançon. Ils ont rapidement été repoussés par le service de sécurité du chef de l'État en vacances. 30 médailles désormais pour la France aux Jeux Olympiques. La dernière en cyclisme sur piste. Médaille de bronze pour le duo Grondin-Thomas. Journée historique pour le basket français avec de l'argent pour les garçons et du bronze chez les filles, de l'or ou de la argent à suivre cet après-midi avec les finales du hand et du volley à suivre à partir de 14h. Sur la route, plus de 1000 km de bouchons, la route des vacances. Il faut être encore très patient, Sarah Loubacouche.
Oui, tout à fait Alexandre. Si vous êtes encore nombreux à rouler vers le sud et le soleil sur l'A7 avec un temps de parcours doublé entre Lyon et Orange, bien il y a du monde aussi en direction du sud-ouest sur l'A10. À l'approche de Bordeaux, vous rencontrez énormément de difficultés, notamment ce bouchon des Régnacs qui vous ralentit jusqu'à la cité girondine. Au niveau de vos temps de parcours, c'est quasiment le double trouble aussi qu'en temps normal. Hein. Une fois passé Saint-Arnoult, vous mettez 7h30 pour aller jusqu'à Bordeaux contre 4h30. Quand tout va bien, on reste patient. Bon courage à tous.
Merci Sarah Loubacouche. La météo, Valérie Quintin, des orages cet après-midi, notamment dans le sud-est du pays.
Oui, attention aux orages, notamment sur les trois départements du centre-est pour cet après-midi et pour ce soir, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Mais les orages vont concerner tous les départements allant du Vaucluse jusqu'au Jura. On va avoir localement de la grêle, beaucoup de pluie, de fortes rafales de vent. À l'avant de tout cela, quand même quelques belles éclaircies entre le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Et puis à l'arrière, un régime d'averses orageuses, ce qui veut dire qu'entre deux, on peut quand même espérer quelques éclaircies. Des éclaircies qui pourraient d'ailleurs l'emporter avant la fin de l'après-midi, le long de la façade atlantique. Reste les températures. Pas très élevé, 18 degrés attendus à Aurillac au meilleur de l'après-midi, 21 degrés à Rennes et Maubeuge, 22 à Paris, 23 à Lyon, 26 à Nîmes, 29 pour Avignon.
Merci Valérie. Du vent aussi à l'étranger où le vent attise les incendies en Grèce. Emmanuel Macron annonce l'envoi sur place de 3 canadairs français, 80 pompiers et sauveteurs. La France se tient aux côtés de la Grèce. Je cite Emmanuel Macron. On termine par un rappel des pronostics pour les courses cet après-midi à Deauville. Les pronostics signés Jordan Philippi, le 4, le 9, le 3, le 6, le 13, le 12... Et le 15, la dernière minute, c'est le numéro 9 de Ville. Dans un instant sur RTL, il sera 13h03. Et vous serez avec Jean-Alphonse Richard qui vous présente les voies du crime sur RTL.
Agnès Bonfillon, RTL Matin Weekend.
Je vous retrouve demain de 6h à 9h15. Au programme de votre été, de l'info, des chroniques, de la musique et des bons plans un peu partout en France. Évidemment, le tout dans la bonne humeur, car vous êtes bien sur RTL.
RTL Matin Weekend.
Jeanne et François étaient enseignants. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche. Contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC, vous aussi, faites un leg à l'Institut du cerveau.
Demandez notre brochure au 01 57 27 41 41 ou sur leg.institutducerveau.fr.
Ikea.
Des baskets, un nouveau portable, oh, un chien.
Je pensais plutôt à une nouvelle chaise et une lampe de bureau pour ta rentrée.
Et un vélo?
C'est le moment de booster votre rentrée avec les petits prix Ikea. Jusqu'au 19 août, avec la carte gratuite Ikea Family, la lampe de bureau à LED Arte est à 11,50€ au lieu de 15,99€. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr.
Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait.
Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Pastis Duval. Voilà
pastis Duval, une histoire d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Carrefour. Avant que l'heure de la rentrée n'ait sonné, il vaut mieux anticiper vos achats de fournitures scolaires, comme la colle UU par exemple. Non, pas UU, UU. D'ailleurs, jusqu'au 23 août, avec 50% de remise créditée sur votre carte Carrefour, le lot de 6 bâtons de colle UU revient à 1,87€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. C'est ça, une rentrée Carouf à prix de ouf Carrefour.
Prix payé en caisse, 3,75€. 5 bâtons de 8 grammes plus 5 bâtons de 21 grammes. Modalité sur carrefour.fr.
Les voies du crime sur RTL.
Bonjour à tous. RTL vous propose de découvrir ses créations podcast originales consacrées aux grandes affaires criminelles. L'histoire sur laquelle nous allons revenir dans ce premier podcast, présenté par Jean-Alphonse Richard, est l'affaire Giraud-Lherbier.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et j'ai décidé de me pencher sur une affaire qui reste à ce jour non élucidée, malgré une enquête fouillée, une foule d'indices et de témoins. L'affaire Giraud-Lherbier. La vérité sur ce crime, un homme au moins la connaissait peut-être. Le suspect numéro 1, Jean-Pierre Trébert, mais en choisissant de se suicider, il a emporté avec lui ses secrets. Ce 1er novembre 2004, Géraldine Giraud, 36 ans, comédienne et fille de l'acteur Roland Giraud, et Katia Lherbier, 32 ans, assistante sociale et chanteuse dans un groupe de rock, passent ensemble un week-end à la Postole, un tout petit village de Lyon, 140 habitants. Les deux femmes se sont rencontrées il y a quelques jours par l'intermédiaire de Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine et colocataire de Katia. Géraldine et Katia sont tombées immédiatement amoureuses. Une histoire passionnelle qui a tous les airs d'un coup de foudre. Mais après ce début de séjour en amoureuse, une journée à l'apostole, elle ne donne soudain plus aucun signe de vie. À partir du 2 novembre, Géraldine et Katia ont disparu. Rapidement, un homme est identifié. Jean-Pierre Trébert. Il a été repéré alors qu'il utilisait dans un supermarché d'un département voisin, la Seine-et-Marne, les cartes bancaires de Géraldine et Katia. Le suspect multiplie les versions durant les interrogatoires, devant les policiers, puis devant le juge. Sur son emploi du temps, il avoue qu'il a fait des travaux dans son jardin le week-end de la disparition. Pour les enquêteurs, plus aucun doute, il a dissimulé les corps. Après 2 jours de recherche, les corps sans vie de Géraldine et Katia sont retrouvés dans un puisard, une réserve d'eau usée dans le jardin de Jean-Pierre Trébert. Des corps à moitié dévêtus, couverts d'un tas de pierres. L'autopsie ne montre aucune blessure particulière par balle ou arme blanche, aucune trace de coup suspect ou d'étranglement, rien, sauf une dégradation anormale des poumons. L'enquête finit par conclure que les deux femmes sont mortes empoisonnées par un gaz très toxique, la chloropicrine. Ce gaz, interdit, a longtemps été utilisé par les gardes-chasse pour exterminer les nuisibles, gardes-chasse, métier qu'a exercé Jean-Pierre Trébert. Malgré des mois d'enquête, plusieurs mises en examen de suspects, des interrogatoires et des confrontations, une reconstitution, les enquêteurs n'ont jamais réussi à définir avec précision ce qui a pu se passer entre le 2 novembre, date où les téléphones des victimes ont cessé de borner, et le jour où les deux corps ont été retrouvés. Jean-Pierre Trébert a-t-il agi seul ? La mort des deux jeunes femmes était-elle préméditée ? Trébert ne pourra jamais donner une réponse à chacune de ces questions. Après s'être évadé en 2009 de la prison d'Auxerre, il s'est donné la mort, pendu dans sa cellule.